Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, il n'y a pas de rattrapage. Par contre, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un résumé écrit. Ce sont des textes et des PowerPoint, en gros, par email. Pour cela, il faudrait vous inscrire sur une liste qui est sur la table. Et vous mettez votre nom et votre email. Et Patrick n'est pas encore d'accord, mais il va bien le faire, va vous envoyer par la suite les textes que je lui envoie. Et ce sont les résumés, et je m'excuse déjà des fautes de frappe parce que ça a été fait un peu à la vite. Si vous avez besoin de quoi écrire, il y a du papier, il y a des stylos là-bas, donc servez-vous parce que pour prendre des notes, c'est bien utile. C'est aussi une manière de rester dans le sujet. Donc, si vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de papier, qui veulent écrire? Oui? Peut-être que Pierre, tu veux bien répartir quelques feuilles à ceux qui le voudront. Je vous encourage d'écrire. C'est une manière de s'approprier et de mémoriser tout ce que vous entendez, parce que ça passe très vite. Hier, on a traversé l'histoire en TGV. On s'est arrêté à Paris, comme chaque TGV, à plusieurs reprises. Et si vous voulez savoir pourquoi et comment, donc vous avez les enregistrements ou les textes à lire. Aujourd'hui, on va poursuivre et je vais reprendre quelques éléments parce que le monde de la mission, comme on l'a connu depuis quelques siècles maintenant, a profondément changé et est encore en train de se muer. Et ça donne à réfléchir sur non seulement la pratique, comment faire la mission, mais aussi sur la question de fond, c'est quoi au juste la mission de l'Église. Comme je vous l'ai expliqué hier, le mot mission ne veut rien dire, tout dépend de ce qu'on met dedans. Et pendant très longtemps, ce mot ne voulait rien dire dans l'Église, sauf pour les théologiens qui parlaient des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, ils utilisaient le mot mission pour dire que le Père envoie le Fils et le Fils envoie le Saint-Esprit, et ça va très bien entre ces trois-là, et ça s'appelait les processions, les missions de Dieu. Et à partir d'un certain moment, les catholiques, à commencer par Ignace de Loyola, ont emprunté ce mot et ils ont rempli ce mot avec l'idée de la mission comme nous le comprenons, c'est-à-dire évangéliser les peuples en dehors de l'Europe pour implanter des églises. Et c'est devenu la signification de la mission comme nous l'entendons. Mais dans le langage normal, dans la vie de tous les jours, mission peut dire beaucoup de choses, ça dépend de la mission qui vous est confiée. Donc, dans le monde de la mission au sens chrétien du terme, il y a des changements profonds et je veux vous faire un tour d'horizon des changements et des tendances et aussi aborder un nouveau regard sur la pratique de la mission et la nature de la mission. De quoi parlons-nous au juste? Voilà pour ce matin. Et je répète, si vous avez de quoi dire, si vous avez envie de poser une question ou d'intervenir, vous le faites à chaque moment que vous jugez bon et je vais essayer de répondre à ce que vous dites. D'accord. Ça va nettement mieux d'ailleurs. La mission, donc entre guillemets, aujourd'hui, changement qui donne à réfléchir. Ce sont des éléments que je mets un peu en cohérence, mais ce sont des choses que vous vivez et que nous vivons à chaque instant. Donc, c'est plutôt pour nous sensibiliser à ce que le contexte de la mission a complètement changé comparé à l'époque d'Ignace de Loyola et les jésuites qui ont commencé à parler de la mission et à faire de la mission, et de l'époque de William Carey qui a été le moteur de la mission évangélique protestante, et de l'époque du 19e et début 20e siècle où la mission était à son apogée. Il y avait des dizaines de milliers de missionnaires qui travaillaient partout en dehors d'Europe pour évangéliser. Ce contexte-là a complètement changé. Et je résume. D'abord, les empires européens sont décolonisés. En 1910, l'année où s'est tenu ce grand événement, la conférence de Édimbourg, qui était la première conférence internationale œcuménique de l'Église depuis les premiers siècles, où on a dressé le bilan de la mission, où la mission était à son apogée. À cette époque-là, 85% du monde était dominé par les Européens. Quand on inclut aussi les États-Unis, qui sont devenus indépendants, mais qui ont connu une période de domination européenne, idem pour l'Amérique latine. Quand on ajoute tout cela, ça veut dire 80% du monde a été sous l'emprise des Européens, 85%. Et les autres 15%, vous savez quels sont les pays qui n'ont jamais connu de domination européenne ? Il faut se creuser la tête. Hein ? Le Japon, l'Océanie, non, ça a été complètement européen, et encore. La Corée, la Thaïlande, plus ou moins. Parce que qu'est-ce que faisaient les Britanniques ? Ils disaient, ah, c'est très bien d'avoir un roi, et bon, on va laisser le roi en place, et en coulisses, on va quand même diriger les choses. C'est comme ça que les Britanniques ont fait aussi en Inde. Et la Chine était répartie en zones d'influence, et à un moment donné, la Chine s'est révoltée justement contre la domination européenne. Et la mission en Chine était uniquement ou seulement possible grâce à la domination commerciale des Européens qui ont mis des conditions. On veut bien faire de la commerce et faire le commerce de l'opium, notamment avec vous les Chinois, à condition que vous ouvriez vos villes et vos villages à nos missionnaires. Et c'est comme ça que les missionnaires ont pu pénétrer les pays voilà, à l'intérieur de la Chine. C'était en Chine. Le Mexique a été espagnol pendant des siècles. Ouais. Toute l'Amérique a été européenne à un moment donné. Voilà. Donc ça veut dire que ce contexte-là n'est plus là. Et donc la mission se trouve dans un contexte de nations indépendantes avec leurs aspirations économiques et culturelles. La mission n'est plus un allié naturel de l'administration ou du pouvoir en place, mais est considéré comme un élément étrange venant d'un autre pays, d'une autre culture. Et ces pays se sont rendus compte de la différence entre leur culture ancienne et la culture européenne, et du coup les missionnaires se trouvent dans un camp adversaire ou dans un camp étrange. Ils ne sont plus de leur côté et ça crée énormément de tensions. Certains pays ont même gentiment demandé aux missions de partir. C'était le cas en Zimbabwe à un moment donné. Et voilà. Quelle est la place de la mission occidentale dans ces pays qui découvrent leur indépendance, leur identité? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le christianisme est mondialisé. Je vous ai montré les cartes. Et ça veut dire que dans quasiment tous les pays du monde, il y a des églises vivantes qui répandent l'évangile autour d'elles. Quel serait le ou les pays où vous pensez qu'il n'y a pas encore d'église vivante qui parle de l'évangile ? Non, la Corée du Nord, il y a des églises vivantes. Il y a même des universités chrétiennes en Corée du Nord, figurez-vous. Ah oui, c'est plus un pays. On parle même aujourd'hui, on ne parle plus des pays fermés, on parle des pays difficiles d'accès. Mais ça, c'est une autre chose. Ils sont accessibles, mais c'est difficile. Dont l'Arabie Saoudite. Il y a des églises de maison en Arabie Saoudite, composées non pas d'Arabes, mais de Philippinos. Les Philippinos qui travaillent pour les émirs et pour les rois et pour les cours saoudiennes et qui, entre eux, se réunissent parce que ce sont pour la plupart des chrétiens et qui prient pour leur maître et dont on sait qu'ils sont chrétiens. Dans les Émirats arabes, il y a des bâtiments d'église qui se créent pour la communauté internationale, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a une église là-bas. Et donc, ça, c'est une nouvelle donne parce que quel était le principe de base de la mission qui a été déclenchée en Europe? Il faut implanter l'église où il n'y en a pas. Et alors, il n'y a plus de pays où il n'y a pas d'église. Qu'est-ce qu'on fait alors? On plie bagage? On passe à autre chose? Continue? La question se pose. Quand quelqu'un vient ici, du Brésil, et il va travailler au centre-ville de Nîmes, évangéliser, là, il y a des Nîmois qui se trouvent, ces gens de Brésil très, très sympathiques, deviennent chrétiens et se réunissent et ils essayent de créer une église. Mais vous ici, au centre Martin Luther King, ni dans l'église réformée évangélique, ni dans l'église évangélique libre, ni dans les églises baptistes association, on n'en sait rien. Et je suis sûr que ça ne vous plaît pas trop. On aurait préféré que ces gens-là prennent contact afin qu'on sache et qu'on puisse collaborer. Alors, idem pour ces pays-là où il y a des églises. Arrivent les Occidentaux avec leurs projets, leurs plans, et leur planning, et leurs idées, et leur vision. On va mal apprécier le fait que vous travaillez complètement indépendamment d'elles. C'est ça la nouvelle donne. La mission ne peut plus se faire comme auparavant. Donc, c'est quoi le pionnier? C'est quelqu'un qui arrive dans un pays où il y a déjà des chrétiens. Ça, c'est la deuxième nouveauté. Le christianisme est mondialisé. Et ce processus de mondialisation, voilà, on le constate depuis les années 60, mais ça va de plus en plus croissant, ce développement. Je peux vous peut-être montrer encore quelques cartes, parce que ceux qui n'étaient pas là hier, peuvent aussi. Hop. Juste un rappel. Le christianisme en 1910 et en 2010. Et donc, plus c'est foncé, plus il y a des chrétiens. En 1910, le moment important de cette grande conférence à Édimbourg, qui marque une époque. Les Amériques étaient considérées chrétiennes. L'Europe également, plus l'empire des tsars, la Russie. Donc, tous les efforts se concentraient sur l'Asie et l'Afrique, où il y avait déjà pas mal d'églises qui se sont créées, mais en grande partie, les intérieurs de ces pays restaient encore à évangéliser. Vous voyez en 2010 qu'il n'y a plus d'espace blanc sur la carte, l'église est partout. Il y a des zones où le bleu est moins foncé qu'ailleurs, mais il y a des églises partout. Idem, même dans les intérieurs de l'Inde, en Pakistan, en Perse, en Asie centrale, partout. C'est ça le grand changement. OK. Et le troisième changement, j'avais une carte, là il y a les chrétiens en pourcentage par pays, mais je voulais voir. Ah oui, c'est ici. Le centre de gravité du christianisme mondial se déplace vers le sud. C'est ce que je vous ai montré hier Et je, voilà, vous le voyez maintenant, ce cadre-là englobe la majorité des chrétiens. La majorité des chrétiens se trouve maintenant dans l'hémisphère sud. Et nous sommes, en tant qu'Occidentaux, devenus minoritaires. Et là, on parle donc de tous les chrétiens, ce sont des chiffres officiels, donc tous ceux qui sont enregistrés comme étant chrétiens ou censés être chrétiens sont comptés. Donc 66% des Français, 75% des Allemands, etc. Parce qu'officiellement, ils sont encore chrétiens parce que baptisés dans une église historique. Ce phénomène de christianisme nominal ou non pratiquant, c'est un phénomène qu'on trouve dans l'hémisphère nord, dans les pays occidentaux, notamment, et beaucoup moins dans les pays du sud, où le christianisme est plutôt un christianisme de pratiquant. Si on ajoute cela à ce tableau, le tableau devient encore plus parlant parce que ce christianisme du Nord, il faut soustraire de ces nombres tous ceux qui ne viennent, qui mettent jamais de pied dans l'église où ils ont été baptisés. Et c'est le cas pour 50% des Français et la moitié de la population européenne presque. Donc ça réduit considérablement le nombre de chrétiens dans l'hémisphère Nord et agrandit encore la différence entre Nord et Sud. Et maintenant, il faut dire aussi l'Est, parce que dans des pays en Asie de l'Est, l'Extrême-Orient, il y a une croissance d'église phénoménale. Donc, il y a un déplacement aussi de l'Est, de l'Ouest vers l'Est. Et ça, c'est le troisième grand changement qui se fait. Logiquement, s'il y a mission, dans le sens classique du terme, le mouvement devrait aller du sud et de l'extrême est vers le nord et vers l'ouest, logiquement. Mais qu'est-ce que nous faisons encore, les occidentaux, dans ces pays où le christianisme est beaucoup plus présent que chez nous? Ne fallait-il pas concentrer ses efforts sur nos propres pays où le besoin est beaucoup plus important pour évangéliser que dans des pays où le christianisme va croissant à une vitesse plus élevée que la croissance de la population elle-même. Ok. Je retourne vers l'autre. Et on en était où? Le contexte. Il ne fait pas ce que je veux faire. Non, je vais l'ouvrir à nouveau. Non, ça. Il ne fait pas ce que je veux. Bon. Je vais le faire réparer, excusez-moi pour l'interruption. Ce sont des bugs d'ordinateur. Voilà. Centre de gravité déplacé. Et ensuite, l'Occident sécularisé et déchristianisé. Jadis la base d'envoi des missionnaires, l'Europe, et dans une moindre mesure les autres pays occidentaux, ont besoin eux-mêmes d'être réévangélisés du fait de la sécularisation et de la déchristianisation. C'est une nouvelle donne. Jusqu'il y a, disons, un siècle, on ne connaissait pas de pays qui étaient post-christianisés. C'est un phénomène nouveau. Et c'est un phénomène qui change complètement le contexte parce qu'on n'avait pas l'habitude d'évangéliser des pays qui avaient été chrétiens auparavant. C'est très particulier, comme vous le constatez en France et partout en Europe, évangéliser un pays qui a été chrétien. Ouh là là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. On a toujours évangéliser des peuples qui n'avaient pas encore été évangélisés ou qui n'avaient pas encore connu le christianisme. Pour eux, le christianisme est quelque chose de nouveau. En Occident, le christianisme est quelque chose d'autrefois. On l'a connu, on est passé à autre chose. Et ça s'appelle la réévangélisation, et ce n'est pas la même chose que l'évangélisation. C'est assez compliqué.
Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de pays qui ont besoin d'être réévangélisés?
Est-ce que vous pouvez nous citer d'exemples de pays qui ont besoin d'être réévangélisés? On ne va pas très loin. On est en France. Voilà. Voilà. Il faut que les Brésiliens viennent. Sont tous ces pays qui sont sécularisés et déchristianisés, donc l'Europe notamment, l'Europe occidentale en particulier. Le terme réévangélisation ou nouvelle évangélisation a été inventé par les catholiques, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a introduit et qui a déclenché un processus de sensibilisation. Et il voulait changer son église en église missionnaire, et en particulier une église missionnaire capable de réévangéliser la population qui s'est éloignée de l'église. Les évangéliques n'ont pas utilisé ce mot parce qu'ils ont toujours été minoritaires dans des pays où ils ont travaillé, mais ils découvrent le même obstacle, c'est-à-dire des pays qui ont abandonné, pour une raison ou d'une autre, le christianisme et évangéliser de telles populations. Ce n'est pas une mince affaire. Et c'est tout l'enjeu de la réévangélisation. Et on ne peut pas comparer aisément l'évangélisation en dehors de ces pays et l'évangélisation ici. Et tous ceux qui viennent ici le découvrent à leurs frais, qui viennent d'un pays du Sud et qui s'étonnent et qui se scandalisent même du fait que les pays qui leur ont envoyé les missionnaires autrefois sont complètement sourds, réticents, rétifs et même hostiles au même message. Et comment parler à ces gens-là? Ça, bon, Athénise, tu peux en parler, hein, et je pense que tous ceux qui viennent de l'Afrique aussi passent par ce choc culturel. En gros, quand on parle à quelqu'un qui a une vision du monde religieuse, la question de Dieu ne se pose pas. Comme dans la Bible, on présuppose que les gens croient en l'existence d'un Dieu unique, un Dieu créateur, etc. On peut parler de cela, il y a une base. Mais dans les pays sécularisés, cette base n'est pas là. Donc vous parlez dans un vide. Dans un vide. Et parfois, vous vous heurtez à un mur de rejet où les gens se sont cloîtrés dans un sécularisme, une laïcité qui ne veut plus entendre parler de religion, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une nouvelle donne également. Et ensuite, les sociétés transformées. En Occident, encore, mais ce phénomène se répand, la société est transformée à cause d'importants flux migratoires. Ça crée un contexte multiculturel, multireligieux, et dans ce contexte, la place des religions, y compris du christianisme, est source de tension. Nous le vivons chaque jour, mais pas seulement ici, c'est aussi dans d'autres pays. En Corée du Sud, par exemple, qui n'a jamais connu d'immigration, là, il y a une immigration des pays du Golfe et de l'Indonésie, des travailleurs migrants qui viennent là travailler, qui sont des musulmans. Et mes amis coréens m'ont dit à quel point ils étaient choqués de voir une mosquée se dresser dans leur pays, du jamais vu. Et c'est source de tension parce qu'ils ont le soupçon qu'il y a l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, hein? Je suis complètement... Derrière cela, et qu'il y a un projet des intégristes, des djihadistes derrière cela. Donc, ça crée des tensions partout. Idem pour les hindous qui veulent réclamer des régions en Pakistan à cause de leur migration. Donc, partout, la religion est source de tensions dans un contexte multiculturel. Et le christianisme subit le coup de toutes les critiques à l'égard des religions. À cela s'ajoutent des tensions entre religieux et non religieux, ou laïcs et non laïcs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu auparavant. Voilà pour le changement de contexte. Donc, on n'est plus dans le même monde avec notre mission. Et les missions et les églises ont du mal à s'adapter. Ça va pour... ce tableau, rien de nouveau sous le soleil, hein, si vous êtes pleinement dans ces changements. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce changement de contexte? Oui.
J'ai une petite remarque pour le numéro 4, en fait, bien sûr, c'est surtout l'Europe, mais on le voit déjà aujourd'hui, par exemple, les pays comme le Cameroun, il y a les églises depuis plusieurs générations. Et ça commence à devenir un peu pareil.
Oui.
Il y a beaucoup de nominalisme. Les gens sont liés dans une église, mais c'est aussi la question. Alors, ça va devenir...
Ah oui. D'accord, donc je disais, le numéro 4, ça ne concerne pas seulement l'Europe, mais aussi on le voit dans des pays comme le Cameroun, où il y a des églises depuis plusieurs générations, et maintenant il y a le nominalisme qui devient de plus en plus fort aussi.
Oui. Merci de cette remarque, oui. Ça enrichit le tableau. Donc il y a aussi un effet, ce phénomène se répand dans le monde. Bien que ce phénomène reste très, très marqué et très important en Europe, mais plus on s'européanise ou s'occidentalise, plus ce phénomène va se produire dans d'autres pays. Ça c'est vrai. En Australie, c'est pareil. Les États-Unis, remarquablement, échappent à cette tendance, en grande partie, je ne sais pas, God bless America, donc, ça va encore. Mais au Canada, par contre, ce phénomène se produit aussi. Donc, on voit, ça se répandre. Voilà. D'autres remarques? Oui.
En fait, le
micro. Le micro va venir pour amplifier votre voix.
En fait, on a dit « fête de toutes les nations des disciples », mais aujourd'hui, ce serait plutôt « fête des disciples de toutes les nations », parce que faire des disciples, chaque génération a besoin d'être « fête disciples ». Ce n'est pas l'évangélisation, c'est faire des disciples. Et même des pays qui ont connu l'évangile, l'avance de l'évangile il y a un siècle, ont besoin, des nouvelles générations ont besoin d'être faites des disciples.
Oui. Merci de cette remarque, elle est très juste, et ça rejoint ce que j'ai dit hier, on n'a jamais fini d'évangéliser. C'est un travail continu jusqu'au retour du Christ. Dieu n'a pas de petits-enfants, disait Corrie ten Boom. L'une des saintes néerlandaises. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ça veut dire qu'il faut toujours continuer à évangéliser de nouvelles générations. Si on oublie cela, on va le produire. Voilà. Donc, rien n'est acquis. Ce n'est pas grave, mais c'est un travail qui ne s'arrête pas. Il ne faut pas penser que... Et c'est aussi ma critique... que j'oserais formuler à l'endroit de ces théories des peuples atteints et des peuples non atteints, et on distingue un peuple atteint de l'Évangile d'un peuple non atteint. Ça crée l'impression qu'un jour, on a fini le job, voilà, tel peuple est atteint, tel peuple est atteint. Non, on n'a jamais fini le job. Il faut toujours évangéliser et continuer à évangéliser tous ceux qui s'éloignent ou qui naissent dans un milieu chrétien, mais qui ne s'approprient pas la foi de leurs parents.
Oui, je voudrais juste faire une remarque par rapport à un pays spécifique qui n'en est pas un, en fait, le Québec, où dans les années 60-70, il y a eu un rejet. C'était un des pays les plus catholiques du monde. C'était très catholique, très ancré dans la culture, en fait. Il y a eu un rejet, ce qu'ils ont appelé la Révolution tranquille, où on a complètement rejeté le catholicisme, qui est quasiment abandonné aujourd'hui. Mmh. Et dans le passé, il n'y avait absolument aucun, ou pratiquement aucun protestantisme dans le milieu francophone. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, depuis les années 70, il y a un réveil. Et dans une société justement déchristianisée, sécularisée, on voit qu'il y a un mouvement de réveil où il y a beaucoup d'églises évangéliques. Je l'ai connu, moi, le Québec, dans les années 70, où on pouvait compter les églises. Et même des gens... enfin, une personne de ma famille, la femme du grand-père à ma femme, sa deuxième femme, était québécoise et elle disait que quand elle s'est convertie, donc ça remontait dans les années 40 peut-être, elle disait qu'il n'y avait pas elle ne connaissait pas un seul chrétien francophone. Elle allait dans une église anglophone et elle était quoi ? Oui, chrétien évangélique, je parle, protestant ou évangélique. Elle était persécutée. Devenir chrétien au Québec, encore jusqu'à aujourd'hui, c'est devenir chrétien, protestant, c'est devenir anglais. Donc, je veux dire, il y a un espoir dans le sens où, aujourd'hui, dans une société qui était peut-être encore plus déchristianisée que la France, il y a un mouvement de réveil assez important au Québec.
Bon, je ne sais pas si on peut parler de réveil. Tout dépend de ce qu'on entend dire par réveil. Ça mérite d'être analysé. Les retours que nous avons de nos amis québécois qui collaborent beaucoup avec la Fédération Baptiste dont nous faisons partie sont pas complètement optimistes, plus optimistes qu'ici en France, mais ils ont du mal quand même aussi à évangéliser, à créer de nouvelles églises. Ils le font avec beaucoup d'entrain. Mais comme c'était le cas en Europe, il y a une différence entre les années 70-80 et aujourd'hui. C'est une autre génération et beaucoup d'églises évangéliques ici tirent leurs origines dans cette génération des années 70-80. Et au Québec, beaucoup d'églises baptistes que nous connaissons de par notre association avec les baptistes là-bas ont été créées à cette époque-là. Donc ça mérite d'être analysé parce qu'il y a une différence entre le rejet d'une église et le rejet de Dieu. Quelqu'un qui est remonté contre l'église catholique institution ne va pas forcément abandonner sa vision du monde religieuse, mais il ne veut plus de cette institution. Et donc, cette personne-là peut être très sensible à un message de l'Évangile parce que ça va avec sa vision du monde qui reste encore religieuse. Si la personne va rejeter et l'institution, mais aussi une vision du monde religieuse où il n'y a plus de place pour Dieu, il ne croit plus à l'existence et à la pertinence de Dieu, là, l'affaire devient plus difficile. Et vous allez analyser vous-même, et c'est à vous de tirer des conclusions. Vous parlez avec ceux qui se sont convertis d'un arrière-plan catholique à une foi vivante, une relation personnelle avec Dieu. Et très souvent, ça me frappe, il y a quand même un témoignage de ce que, dans la jeunesse, cette personne avait fait une vraie recherche de Dieu, une ouverture à Dieu, mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait dans l'église institution. Donc, elle a trouvé ailleurs. Ça, c'est assez répandu. Donc, il faut distinguer le rejet de l'institution, ce qui s'appelle anticléricalisme, qui est très prononcé au Québec, notamment, comme en Espagne, c'est le cas aussi, et en France aussi, et en Allemagne de l'Est, c'est très marqué. Et un rejet de l'existence de Dieu et la recherche de Dieu. Voilà, ce sont deux facteurs pour compléter un peu le tableau. Mais c'est très intéressant, tout n'est pas perdu, mais c'est une autre affaire, c'est ça, le point 4. La réévangélisation, elle est possible, mais elle va se heurter à des obstacles nouveaux. Voilà. Il faut toujours expliquer que le message que nous présentons n'est pas celui de l'institution que la personne a rejetée. Voilà, donc on va se dissocier de cette histoire en disant « Non, mais on n'est pas catholique. Non, mais on n'est pas de ceux-là. » Voilà. Et les missionnaires n'avaient jamais à dire cela dans les pays où ils arrivaient, parce qu'on ne connaissait rien du tout. Donc, ils n'avaient pas besoin de se dissocier de quelle tendance que ce soit. Dans la réévangélisation, il faut se positionner par rapport aux églises historiques et au passé. Voilà. Je peux continuer ? Oui ? Pas d'autres questions ? Merci de vos remarques, parce qu'elles sont tout aussi pertinentes les unes que les autres. Je vais continuer. La mission n'est plus ce qu'elle était. La mission elle-même change. Regardons de plus près ce qui se passe dans le monde missionnaire. Rien que dans le monde missionnaire protestant évangélique, le monde missionnaire est en grande partie évangélique parce que les églises protestantes historiques ont en large partie abandonné leur mission classique. Première chose, premier changement, l'action sociale et d'entraide amplifiée. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes travaillant dans la mission à l'étranger, donc la mission classique, sont de plus en plus nombreux à s'engager dans des projets humanitaires, sociaux, ah oui, excusez-moi de... ça ne va pas du tout, hein, ça ne va pas du tout. Dans des projets... humanitaires, voilà, sinon on va dire... Si c'est grave, très grave. Ok, je retourne. Où est-ce qu'il a disparu? Ah oui, maintenant il disparaît. Ok, il va faire le détour. Oh là là. Voilà, on est arrivé. Hop. Et là, il réapparaît. Changement de temps. Et là, il est. S'engager dans des projets humanitaires, sociaux, médicaux, éducatifs. Okay. Les personnes nombreuses. Ça va? Je n'ose plus continuer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut aussi dire les profs, ce n'est plus ce qu'ils étaient. Hein. Mais bon, la mission n'est plus ce qu'elle était. La mission devient en grande partie une mission d'action sociale et d'entraide. Je ne vois pas ce que je fais, mais ça va aller. Les missions se préoccupent de la justice sociale, de la pauvreté, de la dégradation de l'environnement. Et en plus, les organismes missionnaires... C'est pas tout ce que j'aime. Excusez-moi parce que... Pourquoi ça ne va pas? Hop. La persévérance va porter du fruit. Voilà. les organismes missionnaires s'investissent davantage dans l'entraide aux églises et institutions chrétiennes, notamment dans la formation, les écoles et l'enseignement théologique. Vous allez faire le tour des organismes missionnaires, vous allez repérer les types d'actions menées et vous allez voir que les actions classiques, telles l'évangélisation auprès des peuples non chrétiens et l'implantation d'églises, ne concernent qu'une minorité. La majorité de la mission est investie dans d'autres types d'actions, notamment actions sociales, d'entraide. On le voit par exemple dans l'enseignement théologique. Curieusement, il y a donc beaucoup d'instituts bibliques qui ont été créés par les missionnaires pour former les pasteurs sur place. Ce sont devenus des instituts théologiques, parfois des facultés, mais là encore, il y a beaucoup de missionnaires qui sont envoyés par les missions pour enseigner telle ou telle matière dans la faculté. Même à la faculté où moi j'enseigne, à Louvain, nous avons presque la moitié des profs à plein temps qui sont des missionnaires. Ils ne sortent jamais de leur bureau, ils sont toujours avec les étudiants déjà chrétiens, et on sait très bien comme ça. Mais c'est considéré comme une œuvre missionnaire que de les soutenir, et les Américains, God bless America, continuent à les soutenir parce que c'est la mission. Et grâce à eux, la faculté peut vivre. Et je pense que c'est la même chose pour la faculté à Aix et d'autres facultés en Europe. Mais ce n'est plus la mission classique. On est dans d'autres actions. Il y a des projets d'ordre humanitaire, on va aider les réfugiés, on va dresser des camps, on va distribuer de l'aide, on va se préoccuper de l'environnement, monter des projets de reboisement, on va créer des écoles, des campagnes de sensibilisation aux médicaments, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est complètement nouveau. Les missionnaires ont toujours fait cela. Ils ont créé des écoles pour apprendre à lire, des dispensaires pour prodiguer des soins médicaux. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi les missionnaires se sont préoccupés de la médecine? Pas tout à fait, mais vous êtes sur la piste. Oui, mais pourquoi la médecine? Pourquoi pas simplement prier? Parce qu'il y avait un autre type de médecine sur place. Voilà, et donc on était en concurrence avec les sorciers, les chamans et compagnie. Donc il fallait montrer une alternative. Et c'est ça où a commencé l'œuvre médicale de la mission. Ce sont devenus des hôpitaux partout. Les écoles sont devenues des établissements d'enseignement national. Donc, les missionnaires ont toujours fait cela, mais c'était des actions complémentaires. L'accent était quand même mis sur la propagation de l'Évangile et le développement de l'Église. Et à côté de cela, il y avait des actions d'ordre humanitaire, social, médical, éducatif, etc. Mais maintenant, on voit inversement, ce sont ces actions qui prennent le plus dans l'action missionnaire et qui prennent de plus en plus de place. Ça, c'est un changement très important. Et très souvent, pour les gens de l'Occident, c'est une justification de leur travail, parce qu'ils considèrent que l'Occident, on a fait beaucoup de mal, mais ils ont encore, en tant qu'occidentaux, une expertise et des moyens financiers leur permettant de mener de telles actions. Et c'est la bienvenue. C'est ce que les gens accueillent avec plaisir, parce que ça aide. Il y a une mission multidirectionnelle. Le mouvement de l'Ouest vers le reste existe encore. C'était le mouvement classique. Mais les mouvements du Sud au Nord, d'une région du sud vers une autre, de l'est vers l'ouest, sont de plus en plus importants. Saint-Gilles. C'est-à-dire qu'il y a des Africains du Sud qui vont évangéliser dans d'autres pays africains. Il y a les Indiens qui se déplacent sur le sous-continent indien pour évangéliser une autre tribu. Il y a des Chinois qui vont vers l'intérieur de la Chine. Il y a les Coréens qui vont en Chine ou au Japon. Il y a des Chinois qui vont en Asie centrale. La Chine envoie plus de missionnaires que les pays occidentaux en Europe réunis. L'Inde envoie des dizaines de milliers de missionnaires sans salaire, sans statut, dans leur propre pays. C'est un pays à plus d'un milliard d'habitants, donc il y a de la place. Les Coréens, ils envoient maintenant les protestants, ils ont 25 000 missionnaires actifs maintenant, et c'est encore la moitié des États-Unis, mais on considère que dans 10 ou 15 ans, les Coréens vont dépasser les Américains en nombre de missionnaires. Et puis, parlons des États-Unis, c'est le pays qui envoie encore le plus de missionnaires protestants, mais c'est aussi le pays qui en accueille le plus. C'est le pays où il y a plus de missionnaires que dans n'importe quel autre pays, qui vont vers les États-Unis. Ça vous étonne, dans ce pays béni de toutes les bénédictions, mais il y a beaucoup de missionnaires qui ont un appel et qui sont envoyés travailler aux États-Unis. Oui.
Et est-ce que ces pays ne sont pas relationnels avec les États-Unis qui parlent l'anglais et...
Non, c'est une question de langue, mais un peu différemment. Aux États-Unis, il y a une population hispanophone qui est très importante, et parmi eux, il y a beaucoup de travail missionnaire mené par les Américains du Sud et qui parlent l'espagnol. Donc, il y a une proximité de langue, mais ce n'est pas l'anglais. Voilà. Donc, il y a des mouvements qui se croisent. Il y a des Américains qui vont en Sibérie, il y a des Sibériens qui vont en Europe, il y a des Européens qui vont en Afrique, il y a des Africains qui viennent ici. Donc, c'est un croisement, c'est multidirectionnel, c'est très intéressant. Et j'espère que l'organisation dans le ciel saura comment diriger tous ces flux missionnaires. En plus, les églises dans les économies émergentes ont plus de moyens. Ce ne sont plus des pays pauvres. Hein. Le Brésil ou la Russie ou l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, les fameux BRIC, ce sont des économies où il y a des moyens. Les églises ont des moyens de soutenir et d'envoyer des missionnaires dans d'autres pays. Ça change. Troisièmement, il y a de nouveaux modes d'opération. On parle des missions émergentes en Afrique, Asie, Amérique latine et Océanie. Ils prennent le relais des Occidentaux, mais souvent avec d'autres modes d'opération que ceux de la mission classique au niveau des finances, de la logistique et de la formation. Le modèle classique d'un missionnaire occidental, c'est quelqu'un qui reçoit un appel, qui va voir son pasteur et qui confirme l'appel. On va être envoyé à un institut biblique, il passe 3 ans et quand il a survécu à tous ses enseignements théologiques, il va partir en mission et là il va apprendre la langue, donc il faut avoir quand même un don de langue et pour cela, être doué pour les langues, il va se préparer, il va travailler longtemps pour cela et pendant tout ce temps, il est soutenu financièrement par un organisme, par un cercle d'amis ou par une église. Et il y a un organisme missionnaire qui organise les questions logistiques, etc. C'est très organisé. Il y a des visites des responsables qui vont passer vous voir pour prendre de vos nouvelles, prier avec vous. C'est très organisé. Des missions émergentes travaillent parfois complètement différemment. Le cas le plus parlant, c'est celui des Philippinos, où la plupart de ces missionnaires ne sont pas des missionnaires officiels, qui n'ont pas reçu de formation, mais ce sont des travailleurs migrants, qui vont travailler dans d'autres pays pour subvenir aux besoins de leur famille. Comme ce sont très souvent des chrétiens engagés, leurs églises leur donnent une petite formation voilà, quelques séminaires, c'est tout, afin de les encourager à évangéliser leur entourage dans les pays où ils viennent. Ce sont des gens très gentils, très avenants, qui sont doués pour des services aux personnes dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les tâches domestiques. Et donc, ils sont très appréciés partout et ils ont une façon de parler très naturellement de leur foi. Il y a des dizaines de milliers qui sont envoyés comme ça. Mais leur travail principal, c'est de subvenir aux besoins de leur famille. Mais pendant ce temps-là, passé au Moyen-Orient ou en Europe ou ailleurs, ils n'hésitent pas à parler de la foi. Et ce sont des missionnaires nouveau style. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Le missionnaire classique semble être en voie de disparition. Toutes les missions s'en plaignent, tous les organismes missionnaires peuvent vous sortir des lamentations sur le fait que le nombre de vocations classiques diminue et donc ceux qui ont fait de la mission leur vocation à vie, ils prennent leur retraite ou bien ils sont démobilisés pour des raisons de santé ou autres. Et le remplacement n'est pas là, la relève n'est pas là. Ça, c'est un classique dans les histoires aujourd'hui des organismes missionnaires. Et puis, il y a un déplacement. Au lieu de vocation missionnaire, où quelqu'un va se consacrer à la mission dans le sens classique du terme, aujourd'hui, on privilégie les projets missionnaires. Ce sont des missions à court terme, tandis que les engagements à vie se font de plus en plus rares. La mission est pensée en termes de projet. Et dans les institutions de formation à la mission, une matière très importante aujourd'hui, c'est le management de projet. Un missionnaire aujourd'hui doit savoir manager un projet, manager les finances, organiser un projet, atteindre les objectifs, faire des comptes rendus, trouver des fonds, etc. C'est tout un travail que le missionnaire classique n'avait jamais à faire. Et nos étudiants s'en plaignent. Nous avons certains étudiants qui viennent pour une année ou deux années de formation missionnaire et ils se plaignent du fait qu'on leur remplit le crâne de la théologie et eux, ils sont demandeurs de sujets beaucoup plus pratiques, de l'ordre de, voilà, de management et de travail en équipe, de logistique, d'informatique, etc. Parce que dans les projets missionnaires, c'est ça. On travaille sur un projet, 3 ans, voilà, tel ou tel objectif. On présente cela à l'Église, ça coûte tant. Et si vous donnez tant, cette Église donne tant, et comme ça, on a un financement bouclé, et après 3 ans, on vous présente les objectifs accomplis, et puis vous en aurez pour votre argent. C'est comme ça. Et ceux qui ont un soutien à vie, ça devient assez rare. Donc, la mission est pensée en termes de projet. Et ces projets peuvent durer 2 semaines, ou 4 ans, ou voilà. Mais c'est limité dans le temps et on fait des voyages missionnaires, c'est très clair, c'est tel objectif, ça coûte tant, il faut aller là-bas telle date, on rentre telle date, il y a un billet, il y a une assurance maladie, il y a quelqu'un qui vous envoie, il y a quelqu'un qui vous reçoit et puis qui sera content que vous partiez également. Et voilà, c'est un projet, c'est limité dans le temps, on sait ce qu'on a et on n'a pas de mauvaises surprises. Et après, vous reprenez votre travail, vous rentrez dans votre travail ordinaire. On estime que l'argent dépensé pour des projets missionnaires à court terme, que ce budget, au niveau mondial, dépasse largement maintenant l'argent dépensé pour soutenir les missionnaires qui font un projet à vie. Donc il y a un déplacement. Un déplacement. Et là, on n'est plus dans le monde des missions classiques, parce que là, on partait à vie. Bon, bien sûr, c'était à court terme, très souvent, pour des raisons multiples. Les bêtes sauvages, le voyage déjà, il fallait survivre au voyage. Et puis vous arrivez, il y a un comité d'accueil qui n'était pas toujours très gentil. Donc si vous survivez au comité d'accueil, vous allez apprendre la langue, vous installer. Et puis il y a les maladies tropicales. Et puis encore une barrière à prendre. Donc pour la plupart, c'était des missions à court terme. Il y a la fameuse... il y a l'histoire d'une fameuse institution, école biblique en Allemagne, au 19e siècle, qui formait des missionnaires pour partir dans les colonies allemandes, pour faire une offre de mission, pour travailler dans telle ou telle région, parmi telle ou telle tribu. Après 3 ans, pourquoi 3 ans? C'est très clair, Jésus a fait un ministère de 3 ans, donc toutes les écoles bibliques durent 3 ans, c'est clair. Donc après 3 ans, il y avait donc prise de congé, remise de diplôme et puis allocution du directeur. Et il avait coutume de dire, voilà, nous vous envoyons dans la mission et nous prions Dieu et nous espérons de ne plus vous voir, de ne plus jamais vous revoir. Voilà. Parce qu'on partait à vie, congé, ça n'existait pas. Vous partez, vous ne revenez jamais. Et ça pouvait durer très, très longtemps ou à court terme. Donc ça a complètement changé. Quand William Carey est parti pour l'Inde, il n'avait pas l'intention de revenir. Sa femme avait le mal du pays, donc, mais lui, pas question de revenir en Angleterre. Donc sa femme est devenue... lui, il disait, elle était folle, mais je pense que c'était lui plutôt le fou, et sa femme, elle est morte de chagrin. Ouais, c'est une histoire douloureuse. Autre changement, dans les milieux missionnaires, on va se concentrer davantage sur des questions stratégiques. C'est-à-dire, on va définir qui sont les peuples non atteints. Qu'est-ce qu'un peuple non atteint? Est-ce que vous le savez? Vous avez entendu parler de ça, les peuples non atteints? Il y en a quelques-uns en France aussi, hein, les peuples non atteints. J'ai lu des livres où les ch'tis, les Bretons et les Catalans étaient considérés comme des peuples non atteints, et les Corses, en France. C'est rigolo, oui. Mais c'est quoi un peuple non atteint? Vous avez une idée?
C'est peuple? Des peuples qui n'ont aucune église vraiment autochtone.
Oui, autochtone. Oui, ça c'est un critère. Donc il peut y avoir des chrétiens ou non? Mais pas d'église. Et vous dites, église autochtone. C'est quoi une église autochtone?
Donc, qui est vraiment gérée par les gens de cette population.
Ah, oui. Ah, oui, donc...
indépendante de
gens. Oui, oui. Le vieux rêve de toutes les missions, de rendre les églises indépendantes. C'est pas facile. C'est un critère. Mais... quand on utilise ce critère, un peuple peut rester très longtemps non atteint, tandis qu'il y a une église qui reste encore sous la domination ou la gestion d'un organisme missionnaire. Ça peut durer longtemps. C'est un critère. Bon, ce sont des termes que les missiologues américains ont inventés et ils ont défini des critères aussi. Et en général, on dit que quand le nombre de chrétiens n'a pas encore atteint 1% ou 2% de la population, on considère que le peuple est non atteint. Ce sont des critères que vous ne les trouvez pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de peuple non atteint. Il faut aller à tous les peuples dans le monde entier. Mais ces catégories-là, c'est des dernières décennies qu'on va dresser des listes des peuples Bon, on peut le comprendre, qui n'ont pas été touchés par l'Évangile en grande partie et où il n'y a pas encore d'église autonome, c'est-à-dire une église qui peut faire l'évangélisation elle-même. Voilà. Parce qu'une fois une église sur place qui prend le relais de l'évangélisation, le missionnaire peut aller ailleurs. C'est ça l'idée derrière. Donc on a dressé des listes des peuples non atteints. Mais c'est quoi un peuple ? Voilà. Et là, on va donc parler de ce que Matthieu 28 veut dire, aller dans le monde entier, vers toutes les nations, tous les peuples, toutes les ethnies. Et on va dire, ce n'est pas des nations, c'est pas des... mais ce sont des groupes culturels ou linguistiques. Donc il peut y avoir des dizaines de peuples dans un pays. Et un pays peut être évangélisé, mais dans ce pays évangélisé, il peut y avoir des peuplades, des peuples avec une autre langue, autre culture, qui, eux, ne sont pas encore atteints. Donc, il faut aller chercher ces peuples non atteints. Et il y a énormément de stratégies, comment le faire. Et l'accent a donc mis sur l'implantation d'églises adaptées à leur contexte culturel, parce qu'il faut que ces églises puissent prendre le relais. Et dans, vous allez promener sur les sites de n'importe quel organisme missionnaire et vous allez entendre ou vous allez voir à quel point ils parlent de ces stratégies et comment impliquer les gens dans ce travail d'atteindre les peuples non atteints. Et derrière cela, il y a parfois ce que j'appelle un empressement eschatologique. Ça veut dire qu'il y a l'idée que il faut faire vite parce que plus on fait vite, plus vite le Seigneur va revenir. Parce qu'il faut que tous les peuples soient atteints. Et une fois un peuple atteint, on peut cocher. Et quand il y a la dernière case qu'on a cochée, dernier peuple, les coches, les catalans, bon Seigneur, c'est fait, voilà, tu peux revenir. Et donc il y avait des stratégies qui tablaient sur 2000, dans 2000. Et on pensait que si on fait un gros effort maintenant, on va mettre les bouchées doubles, on va faire des partenariats, on va mettre tous les organismes ensemble, et on va faire des conférences, on va établir des stratégies. Et on considère que, bon, si tout le monde fait son travail, l'an 2000, on y arrivera. Et donc, le Seigneur peut arriver, peut revenir, parce que nous avons accompli notre mission, et voilà, en l'an 2000. Ça s'appelait des projets AD 2000, Anno Domini 2000. Bon, on a reporté l'échéance, mais maintenant on parle des projets 2025. Donc, comme quoi, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est basé sur le texte « Cet évangile du royaume sera prêché parmi toutes les nations et alors viendra la fin. Hein, » c'est Matthieu 24 qui est derrière. Mais bon, j'ai assisté aussi à des congrès... tu te souviens, en 8 ans, 83 déjà, il y avait plein de mobilisations, le projet Josué, il y avait le projet une église pour 10 000 personnes, il y avait le projet, je ne sais pas quoi, énormément de projets. Et voilà, il y avait des cartes, il y avait des tableaux, des finances, et voilà, c'était impressionnant. Il y a des centres d'études qui ont été créés pour compter tous les peuples non atteints, etc., et dresser des listes. Il y a un projet, le projet Monde, Operation World, monté par Opération Mobilisation, qui a fait un livre avec une description de tous les peuples dans le monde, avec un tableau de pourcentage de chrétiens, sujet de prière, et quels sont les peuples non atteints au sein de ce pays, et voilà. Et comme ça, on sensibilise tous les gens à ce travail. Il y a également le tableau est au nombre de 7, donc rassurez-vous, on arrive vers la fin. Ainsi viendra la fin. Démocratisation. Ça, c'est une autre tendance. Autrefois, la mission, c'était l'affaire de ceux qui étaient spécialisés, qui avaient un appel, confirmé, attesté par leur église, qui étaient formés et qui étaient envoyés, soutenus, un personnel spécialement recruté pour l'œuvre de mission. C'était parfois de grosses têtes. Hein. Figurez-vous, parmi les missionnaires, il y avait des savants extraordinaires. Ils ont posé les bases de toute l'anthropologie moderne. Ils ont posé la base de toute l'islamologie moderne. Les premiers grammaires hébraïques étaient faites par des missionnaires. Les premiers grammaires arabes étaient faites par des missionnaires. Les premières études des différents courants dans l'islam étaient faites par des missionnaires. C'était vraiment des gens qui avaient une formation, une capacité de comprendre ce monde dans lequel on les avait débarqués. Aujourd'hui, la mission, elle est à la portée de tous. Ah, vous aimez la mission? Bon, il y a une liste, vous vous inscrivez et cet été, on part. Alors, ça, c'est quand même différent. C'est magnifique parce que ça permet au plus grand nombre de participer. Quand j'ai fait en première année, on reçoit la nouvelle promotion d'étudiants et bon, les premiers cours, c'est pas très sérieux, je discute un peu avec eux, je veux savoir, mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes venu ici et, est-ce que vous avez déjà fait une expérience missionnaire? Oh oui, tout le monde, oui, ils ont déjà parti en mission partout. Ils ont déjà vu les 5 continents avant de voir ma face. Donc, voilà. C'est incroyable, ils peuvent sortir des histoires tout aussi pétillantes les unes que les autres. C'est magnifique ce qu'ils ont vécu. Ils ont déjà discuté avec les Kazakhs, avec les Chinois, avec les Mongols, avec les Sud-Africains, avec je ne sais pas où. Voilà, la démocratie, c'est magnifique. Parce que ça a un effet sur les églises. Dans toutes les églises, il y a des gens qui participent à la mission. Donc ce n'est plus une affaire qui est éloignée des chrétiens lambda, mais ça se fait au sein de nous et tout le monde peut participer. Mais le revers de la médaille, c'est ce qu'on appelle l'amateurisation. Le mot parle de soi. Ah oui, monsieur, mais si j'avais encore passé 3 ans d'études théologiques, ah oui, c'est trop long, non, je ne peux pas attendre ça. Non. J'ai à cœur, il faut y aller, parce que ces gens-là, il faut, voilà. Donc, il faut partir au plus vite. Bon, 1 an, mais après, on va. Donc, on va avec un minimum de formation, et un maximum de motivation, et puis ça fait l'affaire. Et sur place, on le découvre que le taux de démission est assez important. En règle générale, il y a une étude menée par un collègue de nous aux États-Unis, des Baptistes du Sud, qui a fait une année sabbatique et il est passé voir tous les missionnaires des Baptistes du Sud. Et là, il y a des milliers, mais bon, il s'est concentré sur l'Europe. Et là, visiter tous ces missionnaires, tous ces groupes qui venaient pour quelques années ou pour longtemps. Et il a remarqué une corrélation entre formation et durée de ministère. Et en règle générale, plus on est formé, plus on est capable de rester sur place et d'affronter les difficultés. Et moins on va prendre le temps pour la formation, plus vite on est parti. Plus vite, on est reparti, c'est-à-dire. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amateurisation. L'apprentissage du langue, ça c'est un aspect très difficile pour les missions à court terme. Vous partez pour 2 ans, mais bon, ça coûte 5 ans pour apprendre une langue, donc on ne le fait pas. Donc, on se débrouille avec l'anglais. Donc, vous n'allez pas atteindre les peuples non atteints, mais ceux qui parlent l'anglais. Et qui par la suite va aussi la marque de votre montre, et qui vont avoir envie d'avoir une telle montre également, et qui vous demandent aussi comment aller dans votre pays, etc. Il y a des effets néfastes de ce fait que vous venez pour peu de temps. Et ça s'appelle l'amateurisation, qui est le revers de la médaille positive de la démocratisation. Et alors, tout cela, changement de contexte, et le changement dans la mission même, des Bush a deux questions, et là je m'arrête aussi, parce que c'est l'introduction à cet après-midi. Deux questions qui se posent. Une question pratique, comment faire? Cette nouvelle situation donne à réfléchir, elle suscite bon nombre de questions de l'ordre pratique. Par exemple, faut-il encore envoyer des missionnaires dans des pays au loin? Et pour faire quoi exactement? On voit déjà que les missions sont en train de changer le mode opératoire de façon très importante. Et qui va envoyer? Et qui va accueillir? Voilà. Autrefois, il y avait l'Église ou l'organisme qui envoyait. L'accueil, la question ne se posait pas parce que vous allez pénétrer un monde non-chrétien. Donc l'accueil, ce n'est pas une question qui se pose. Aujourd'hui, il y a les églises. Est-ce que les églises vont vous accueillir? Et comment faire ensemble, etc. Ce sont des questions qui se posent. Il y a des milliers de questions qui se posent au niveau pratique. Et il y a la question théologique. Mais c'est quoi alors la mission? C'est quoi la mission? Les questions pratiques sont étroitement liées à une autre question de l'ordre théologique. Qu'est-ce que la mission du point de vue biblique? Nous connaissons la mission avec une certaine signification qui a une histoire particulière qui date du XVIe siècle et ça a donné lieu à un grand mouvement missionnaire avec pour résultat la mondialisation du christianisme. Mais le mot mission, est-ce que c'est ça la mission du point de vue biblique? D'autant plus que ce mot même, ce terme, n'apparaît pas dans la Bible. La question peut se poser autrement. Avec quel mandat, singulier ou pluriel, l'Église est-elle envoyée dans le monde? L'Église est envoyée, mais pour quoi faire? De quelle tâche, singulier, pluriel, est-elle chargée? Donc on revient à la base, et c'est très remarquable que dans toutes les églises, dans tous les courants du christianisme, il y a eu une réflexion à ces deux questions, et aussi à cette question théologique, c'est quoi la mission? Et ça aboutit à un nouveau regard sur la mission, qui est maintenant établie dans les milieux théologiques, missionnaires, etc., mais dans les églises, ce n'est pas encore... dit qu'on a fait un peu cette réflexion et on a ouvert un peu nos esprits à cette vision plutôt biblique de la mission ou des missions de l'Église. C'est ça ce que je veux faire cet après-midi. Mais d'abord, donc, ces changements qui nous amènent à se poser ces questions-là. Est-ce que vous avez d'autres questions quand je reviens sur ces différents changements?
Moi, pas du tout. Parce que j'ai, comment dire, un appel pour la mission. Mais la CIM m'a dit, madame Durand, vous avez 60, plus de 60 ans, je ne vous prends pas. Et bon, j'ai continué à prier. C'est tout ce que je pouvais faire. Donner de l'argent, payer. Mais moi, j'aimerais partir.
Oui.
De ce reste que, comme vous avez dit, quelques mois, quelques années,
okay.
Mais j'aimerais partir. Et soi-disant, je suis trop âgée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire?
Ça, c'est une question d'ordre pastoral qui mérite un échange personnel. Je ne peux pas répondre juste comme ça, ça ne serait pas juste. Mais ça mérite un échange plutôt personnel, pastoral, je pense, pour bien prendre la mesure de votre question. Mais, ok, donc je laisse cette question, peut-être que ça résonne chez d'autres personnes, mais ça serait injuste de dire bon, en deux mots. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on n'est jamais trop vieux pour la mission? Je commence à me poser la question aussi. Hein. Ouais. d'autres questions par rapport au changement dans la mission même.
C'est pas vraiment une question, mais je me dis que peut-être on est en train de rentrer dans une période où on rentre dans une vraie mission. Que peut-être, je sais pas, jusqu'à présent, on a fait la mission générale, avec même par les armes, des fois dans certains pays, enfin, une mission qui s'attaquait à une nation, à un peuple, à un pays, et il fallait convertir les gens par n'importe quel moyen. Et on dirait que maintenant, on rentre dans une mission par dessous, c'est-à-dire individuelle, où les gens s'engagent les uns envers les autres, où les gens apportent le message individuellement. Je sais pas. Hein, c'était juste...
Là, je ne suis pas si sûr que ça. Je ne sais pas si vous faites justice à l'histoire de la mission. On a des exemples d'un christianisme imposé, bien sûr. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu des mouvements apostoliques d'en bas, toujours, et de façon très impressionnante, des individus se sont sacrifiés pour apporter leur plus intime conviction avec d'autres peuplades. Et oui, c'est impressionnant. Donc la vraie mission, quand vous le définissiez comme ça, elle a toujours existé. C'est pour cela que l'histoire de la mission est passionnante, parce que et il faut les raconter, ces histoires. Et c'est vrai, dans notre pays de France, on a vite fait de caricaturer la mission en faisant l'amalgame colonialisme, impérialisme, mission, prosélytisme, etc. C'est le discours qui nous environne tous les jours, mais les faits ne sont pas comme ça. Le plus impressionnant de la mission, quelqu'un a dit, ce sont les tombeaux de la première génération qui est arrivée dans les côtes d'Afrique et de l'Amérique et de la Chine, qui ont tout donné. Personne ne les a contraints, c'était l'amour du Christ. Voilà. Donc ça a toujours existé. Les Moraves, j'ai parlé hier des Moraves, ils partaient avec rien du tout. Ils se sont fait esclaves pour avoir un titre de séjour. Vous pouvez figurer ça, pour être parmi les esclaves. Donc, ce genre de mission, elle a existé à côté d'autres formes de mission. Et peut-être que et ces exemples nous inspirent aujourd'hui, justement.
Non, on disait que les Moraves partaient avec leur cercueil.
Oui, bon.
Mais c'est vrai, mais en tout cas...
Je ne peux pas confirmer cette histoire, mais ça serait typique pour leur attitude. Oui.
Ça veut dire, juste pour montrer la détermination que
oui.
Vous avez. Quoi.
Oui, ça. Je ne peux pas le confirmer, mais ça illustre bien l'attitude.
Le livre précis, l'histoire des missions, aborde justement beaucoup de
choses. Oui, oui. C'est de Blandinier, hein, le précis de la mission protestante et catholique.
Ouais.
D'autres questions et puis je dois terminer.
J'ai une question. Quand tout à l'heure tu disais la mission se déplace beaucoup sur l'entraide sociale.
Oui. Oui.
Quand tout à l'heure Ever disait la mission change un petit peu d'orientation, c'est plus le social, l'humanitaire qui prend le pas sur le fait d'annoncer l'évangile et d'implanter des églises. À quoi c'est dû et est-ce que c'est bien entre guillemets?
Pourquoi ce déplacement et est-ce que c'est bien ou non? Donc la deuxième question est de l'ordre moral, donc là je n'y entre pas, je n'ai pas de jugement à donner, je peux simplement vous dire que dans tous les pays, il y a des églises qui évangélisent, qui font le travail. Donc qu'est-ce qu'on vient faire là-bas? On ne va pas le faire à leur place. Et je pense que les latinos n'ont pas de leçon à prendre de nous les Européens en matière d'évangélisation, c'est plutôt l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se concentre sur les actions que nous savons faire, pour lesquelles nous avons des moyens, et qui correspondent aussi à l'attitude généralisée en Europe et aux États-Unis, en Occident en général. On a fait tant de mal aux pays du tiers-monde, il faut qu'on aide les prochains là-bas et monte des projets. D'autant plus que le financement est beaucoup plus facile, parce que les gouvernements et les ONG participent à cela, et pas mal d'organismes missionnaires, comme Portes Ouvertes par exemple, reçoivent énormément de subventions de la part des gouvernements pour faire de l'humanitaire. Donc là, vous avez un financement assuré. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en cela. Entrent dans cela. Ouais. C'est tout brièvement. Hein, mais...
Voilà, courtement, pour aller dans le sens de la dernière question. J'ai un exemple personnel, je suis à l'est de Madagascar, donc dans l'île de Sainte-Marie souvent, et là, je donne un sujet qu'on n'a pas abordé, le miroir, le reflet de l'islam, donc des moyens. Qu'est-ce qu'on vient faire le puits, l'humanitaire, le sanitaire, tout ça. Eh bien, tenez-vous bien, l'islam a des moyens. Ils payent, les malgaches n'ont pas d'argent, où je suis, pour acheter de la viande. Oui. Eh bien, ils offrent 30 zébus, c'est énorme. Quelqu'un qui a un zébu, il est riche. Ils tuent 30 zébus et distribuent à toute la population non musulmane. Et là, ils se font appâter par des biens. Ils payent des bourses à des étudiants pour aller à l'étranger. Sous-entendu, en même temps, ils évangélisent l'islam. Hein, ils parlent l'islam. Donc, si vous voulez, à travers des moyens de l'Arabie saoudite et d'autres pays, ils ont des moyens, un rouleau compresseur. Et on s'est aperçu à Sainte-Marie, où je suis depuis plusieurs années, il y a une progression énorme de l'islam. Donc, ça pose la question aussi... Les églises, je travaille avec eux, la main d'association, on va dire comme ça, pour ne pas se glorifier non plus, hein. Mais les pasteurs crèvent. Un sac de ciment, c'est 25 000 ariards, ils en ont besoin, ils n'ont rien, quoi. Donc moi, je m'aperçois de ce décalage entre cette progression lente, auto-financée, parce qu'à Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres du monde, Haïti, c'est l'île maudite, il y a 2 euros par personne, Madagascar, c'est 1 euro par personne. Donc il y a une avance très lente escargot, de l'évangélisation, parce qu'on n'a pas de moyens pour se déplacer, pour louer une salle avec un micro. On a fait des campagnes d'évangélisation. Heureusement, j'étais là. Bon, j'ai pu payer la salle, l'électricité, le micro, l'émission de radio. Et l'islam, pendant ce temps-là, par des moyens, fait du rouleau compresseur. Voilà. Heureusement, Dieu gère tout ça. Mais c'est ce côté-là que je voulais un petit peu vous montrer aussi, si vous voulez.
Voilà. Oui. Qu'est-ce de dire ?
Les moyens.
Faut-il apporter des moyens aux pasteurs là-bas, leur donner un financement ? Quel type de pasteur va-t-on créer ? C'est un gros problème. Il y a des pasteurs qui reçoivent des subventions de l'Occident, des États-Unis, et ça corrompt les relations. C'est très mal. C'est très mal. Et si nous devons acheter nos convertis par les moyens matériaux, on est mal loti en tant que mission. Donc il y a une résistance énorme dans les organismes missionnaires d'aller dans ce sens. C'est pas par l'argent qu'on doit faire le job. Et si on est dans un pays pauvre, on est pauvre. Si on est dans un pays riche, on est riche. On n'a pas choisi. Mais l'Église a toujours survécu à la pauvreté. Toujours. Dans les premiers siècles, les Églises n'avaient ni bâtiment, ni micro, ni salle, ni organisme missionnaire, ni évangélisation, ni rien du tout. Et elle a connu une croissance énorme. Donc, c'est possible. Et je pense que cette question de l'islam est justement très importante, parce que c'est un mouvement d'en haut. Comme je disais hier, c'est un mouvement d'en haut. On crée une présence, on va construire une mosquée, on va impressionner, et on va distribuer, on va distribuer. Si on va, le mode opératoire de la mission, elle est plutôt un mouvement d'en bas qui est très réticent à distribuer, parce que ça crée ce qu'on appelle des chrétiens du riz, qui viennent pour le riz et pas pour Dieu. Et on a connu ces effets néfastes quand le missionnaire part, le financement part et tout s'écroule. Et tout s'écroule. Et vous êtes le riche qui va apporter de l'aide, mais ça corrompt les relations, parce que ce n'est plus une relation fraternelle, mais il y a un intéressement de part et d'autre. nous, Yana et moi, nous, on s'est fait avoir aussi, hein, dans ce plan-là financier. Les Allemands, ils disent qu'il y a une guerre jusqu'au retour du Christ entre l'esprit et l'argent. Geist und Geld. Il faut bien dissocier l'esprit de l'argent. Geist und Geld. Donc, mais c'est une question très pertinente parce que c'est justement face à un islam qui avance par ce moyen-là. Ok, on va s'arrêter là parce que bon, j'ai dépassé l'heure, mais bon, on a commencé plus tard aussi. Ok. Il y a encore quelques annonces pour faire.
Rendez-vous à 2h30. Ceux qui veulent manger ici, on mange ici ensemble.
Ok. Merci. À tout à l'heure.